affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Cette semaine, je vous propose de revivre avec vous certaines des pages les plus marquantes de l'histoire de la peinture. Une histoire dont les personnages principaux seraient Giotto ou Caravage, mais aussi Piero della Francesca, Masaccio, Masolino, Cosme Tura, Ribera et d'autres encore. Une histoire souvent oubliée au fil des siècles, incomprise, voire méprisée, et qu'un homme encore trop méconnu du public français a contribué à reconstituer pas à pas, guidé par son amour de l'art, sa passion de la collection, son extraordinaire mémoire visuelle et aussi sa liberté intellectuelle, à l'opposé de tout esprit de système. Cet homme, c'est Roberto Longhi, critique d'art, collectionneur et enseignant, disparu il y a 45 ans, mais à l'honneur actuellement à Paris grâce au musée Jacques Marandré, qui lui consacre une exposition extrêmement originale jusqu'au 20 juillet 2015 sous le titre de Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi. Chacune des 32 œuvres exposées provient soit de sa propre collection, aujourd'hui conservée à la Fondation Longhi à Florence, soit d'autres musées prestigieux, mais fut dans ce cas authentifiée par Roberto Longhi comme étant de la main de tel ou tel artiste. Pour nous aider à découvrir ce qu'étaient les passions picturales de ce grand historien d'art, à comprendre aussi sa méthode, ou peut-être plus exactement sa manière, fondée sur l'enquête critique et la compréhension intime, parfois fulgurante, des œuvres qui s'offraient à son regard, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Babelon, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et président de la Fondation Jacques Marandré. Jean-Pierre Babelon, bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, nous avons aussi la chance et l'honneur de recevoir Nicolas Sainte-Fargarneau, conservateur du musée Jacques Marandré et commissaire associé de l'exposition. Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur Canal Académie. Alors ma première question va être pour Jean-Pierre Babelon. Pourquoi avoir choisi un thème si original, non consacré à un peintre ou à une école précise, mais à un historien d'art ?
Voilà, j'insiste effectivement sur l'originalité profonde de cette exposition. C'est peut-être la première fois qu'on fait une exposition avec des peintures, des originaux, n'est-ce pas ? Et pas seulement des tableaux, des panneaux avec des thèses écrites en noir sur blanc, mais qu'on fait une exposition pour honorer le regard et la pensée d'un homme. C'est-à-dire que cet homme, finalement, à nos yeux de visiteurs de l'exposition, apparaît comme un artiste lui-même, n'est-ce pas ? C'est l'artiste dont le regard fulgurant arrive à identifier, non seulement identifier, mais à percer la personnalité de chaque artiste et à les rapprocher dans une espèce de série qui n'est pas seulement chronologique, mais aussi une sorte de rapprochement de la vision de l'homme sur l'art, de la vision de l'homme sur la création. Donc cet honneur rendu à Roberto Longhi, grâce à la Fondation Roberto Longhi, qui continue, comme vous le disiez, à exprimer l'admiration que nous avons pour ce grand homme, me paraît tout à fait exceptionnel. Et je dois dire que moi-même, comme Nicolas Sainte-Fargarneau, n'est-ce pas, élevé avec des historiens d'art dans les cours de l'École du Louvre ou de la Sorbonne ou du Centre André Chastel, n'est-ce pas, nous avons rencontré beaucoup d'hommes, de grands maîtres de l'histoire de l'art qui se sentaient un petit peu comme des élèves, des collégiens de Roberto Longhi. Et je veux naturellement citer en premier mon très cher ami intime Michel Laclotte, n'est-ce pas, ancien directeur du musée du Louvre, qui a connu Roberto Longhi personnellement, n'est-ce pas, et qui a suivi ses études, n'est-ce pas, bon, ses analyses, son histoire. Et puis il le faisait aussi dans la la culture et l'évolution de pensée d'un autre homme que j'ai beaucoup connu, qui était André Chastel, n'est-ce pas ? Donc, tous ces hommes se retrouvent avec Berenson, n'est-ce pas, et bien d'autres, n'est-ce pas ? Comme toute une série, non pas d'admirateurs, mais de perceurs de mystères. Et je dois dire que je pense à Longhi chaque fois que nous sommes dans les ateliers de restauration du Louvre, avec Nicolas Sanfagarno et avec Michel Laclotte, qui apporte là son regard perçant et sa connaissance extraordinaire de l'art italien, lorsque nous analysons des œuvres qui sont des collections Jacques Marandré, qui sont en restauration, et que nous sommes là avec les restaurateurs, et que Michel Laclotte pointe son doigt sur un point spécial en disant « Qu'est-ce qu'il y a sous cette écaille, n'est-ce pas ? Ah, c'est très curieux, parce que l'enduit n'est pas celui qu'on pouvait imaginer, mais alors ça pourrait être de l'école de Sienne ou de Bergame, etc. » Donc, il y a cette espèce d'esprit de découverte que je suis très heureux de voir illustré dans l'exposition très originale de Jacques Marandré.
Oui, je voudrais ajouter un mot à la suite de ce que vient de nous dire M. Bablon. Je crois qu'il a utilisé le terme adéquat pour définir la personnalité de ce grand homme. Professeur, oui, théoricien, oui, écrivain, oui, mais M. Bablon a dit c'est un artiste. Alors, je voudrais, pour qu'on mesure bien l'étendue de cette, comment dire, de ces qualités et en quoi elle reflète en effet aussi cet aspect qui n'est pas celui du commentateur devant l'œuvre, mais vraiment de l'artiste qui est devant ce, comment dire, devant sa toile et puis qui doit remplir de sa pensée la page blanche ou bien la toile qui n'est pas encore peinte. Je voudrais évoquer certains aspects de cette personnalité. Roberto Longhi, parce qu'il avait un charisme extraordinaire, il a rassemblé autour de lui des gens qui l'ont adoré, mais si vous voulez, la relation était dans les deux sens, c'est-à-dire que lui-même les fascinait, mais cette fascination était réciproque. Et ceux qui l'entouraient, quels étaient-ils ? Eh bien, je voudrais rappeler, par exemple, le grand écrivain Bassani. Et puis, je voudrais rappeler également le peintre Morandi. Alors, c'est passionnant parce que Roberto Longhi n'est pas seulement un historien qui s'intéresse au passé. Il vit dans son présent, il vit dans son quotidien. Et ce qui l'intéresse aussi, c'est la création du moment. Donc, Morandi est un magnifique exemple de ces artistes qu'il a aimés, qu'il a soutenus et avec lesquels il a eu des échanges extrêmement fructueux. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Il y a deux choses que je voudrais rajouter. Dans l'exposition, nous montrons deux dessins qui sont des esquisses. Alors, il faut que je garde un petit peu volontairement de mystère. Ce sont des sujets qui représentent le garçon mordu par le lézard et puis le couronnement d'épines, deux tableaux du Caravage qui sont dans l'exposition. Et donc vous allez me dire, ben oui, ce sont des dessins du Caravage. Non, il faut savoir que Caravage n'a jamais dessiné. Alors que font ces dessins ? Eh bien justement, ce sont des dessins de Roberto Longhi. Et là, on découvre quelque chose de fascinant chez lui, c'est que pour mieux comprendre l'œuvre de cet artiste sur lequel il travaille, il va reproduire lui-même, par le dessin, la mise en forme de la composition, comment l'idée s'élabore. Et c'est par ce travail-là que, petit à petit, il perce le mystère de ce grand peintre. Et ça, je trouve ça admirable.
Alors avant peut-être d'évoquer Roberto Longhi, historien d'art accompli et admiré, j'aimerais revenir au début de son existence et préciser à nos auditeurs à quel moment il est né, d'où il venait, de quelle région d'Italie, et éventuellement si cet ancrage géographique aura une incidence sur ses recherches ultérieures. Nicolas Sanfagarno.
Volontiers. Alors, ce qui est passionnant aussi, si vous voulez, c'est que dès le départ, Roberto Longhi s'inscrit dans la rupture. C'est un homme de la rupture, mais d'une rupture constructive. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Roberto Longhi est né en Piémont. Il est né, alors c'est très curieux, on ne sait pas trop si c'est entre 1889 ou 1890. L'état civil n'est pas clair, mais bon, peu importe. Voilà, vous avez la période, et à partir de là, il va suivre ses études, et puis passer à l'université, et il va à partir de là, être nommé professeur. Il va suivre ses degrés jusqu'à soutenir sa thèse, et il devient professeur en histoire de l'art. Ce qui est passionnant, c'est qu'il est resté dans cette Italie du Nord, dans cette Lombardie. Et il va avoir pour, premier enseignement, la chaire d'histoire de l'art à Milan. Et on ne peut pas comprendre, si vous voulez, la place de Roberto Longhi si on ne met pas en perspective le soutien qu'il va apporter à ce foyer très important, à Bologne également, qui n'est pas loin, et puis de l'autre côté, aux villes qui vont jusqu'à Venise. Et évidemment, les mettre en relation avec Florence. Alors, je résume les choses pour être, je l'espère, le plus clair possible. Vous avez dans ce grand pays qu'est l'Italie, il y a deux capitales. Il y a la capitale spirituelle qui est Rome. Ça, tout le monde en est d'accord. Et la capitale artistique, c'est, nous dit-on, Florence. Eh bien, Roberto Longhi va dire non, je ne suis pas d'accord. Et tout son travail, ça va consister à montrer que Milan, Bologne, Brescia, Ferrare et puis Venise sont des centres qui comptent autant que Florence. Donc, c'est quelqu'un qui inscrit sa recherche, son travail, je dirais, contre Florence, hein, puisque souvent on a dit, il y a des artistes ou des écrivains ou des historiens de l'art qui s'inscrivent dans une tendance qui est contre une vérité qu'on considère comme étant établie pour toujours. Alors, c'est ça le premier élément qui est tout à fait passionnant. Alors, l'autre élément qui est incroyable, c'est que sa première thèse, autrefois on connaissait cela en France, la thèse de troisième cycle, il la soutient sur le Caravage en 1911. Et ce qui est absolument invraisemblable, évidemment aujourd'hui ça paraît tout à fait naturel, mais je dois rappeler qu'en 1911, Caravage ne dit rien à personne. C'est un peintre totalement oublié. Comme il n'est pas académique, entre guillemets, sa place a été sciemment gommée et on fait exprès de l'oublier. Donc Roberto Longhi, tout de suite, s'intéresse à cet artiste originaire du Milanais et il va tout faire pour le réhabiliter. Voilà son premier travail. Et la suite de sa carrière, c'est alors une succession de redécouvertes. Piero della Francesca, dès 1914, et puis ensuite, en 1934, c'est l'école de Ferrare. En 1940, c'est Florence, sur un moment très précis de son histoire, qui est passionnante, qu'il revisite totalement. Donc, à chaque moment de son existence, Roberto Longhi, au fond, nous propose une réécriture de l'histoire de l'art italien. Et ça, évidemment, c'est absolument fascinant parce que je ne vais pas jusqu'à prétendre que avant rien n'existait et puis après Roberto Longhi, tout est devenu clair. Mais au moins a-t-il l'immense mérite d'avoir rectifié un certain nombre d'oublis, d'erreurs, d'inexactitudes et avoir remis en perspective une histoire globale de la peinture italienne qui se décline sur les différents centres.
Alors pour revenir,
j'ajouterais aussi Babelon. Un mot à ces éloges enthousiastes, c'est que c'est un homme qui, comme je me répète, avait une dimension internationale. Cette dimension internationale, nationale, internationale, il fallait la faire vivre, non pas par la radio, par la télévision ou par Canal Académie, n'est-ce pas ? Il fallait trouver des organes qui permettent de faire connaître et d'interroger, de répondre, etc. Or, il a fondé deux revues, n'est-ce pas ? Une revue Pinacoteca en 1928, et puis plus encore en 1950, la revue Paragone, c'est-à-dire comparaison. Ce terme est d'une force extraordinaire, n'est-ce pas ? Il invite tous les lecteurs et les collaborateurs de la revue à faire des comparaisons, et ces comparaisons permettront de jeter un regard tout à fait neuf à l'art de tous les siècles.
Alors, je vous propose de revenir à la première passion de Roberto Longhi, le Caravage. Dans la première salle de l'exposition, on voit trois tableaux, on peut admirer trois toiles de la main du maître, correspondant à différentes périodes de sa vie. On y trouve ainsi le jeune garçon mordu par un lézard, une œuvre de jeunesse, mais aussi deux autres tableaux, le couronnement d'épines, réalisé vers 1602, et l'amour endormi, daté de 1608, soit deux ans avant la mort du peintre. Alors, en vous appuyant sur ces œuvres, toutes prêtées par des institutions italiennes, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs les principales caractéristiques de la peinture de Caravage, celles-là même qui ont fasciné Roberto Longhi, Jean-Pierre Babelon?
Ben, je dois dire que quand vous regardez le garçon mordu par un lézard, ben, vous ne pouvez pas résister, n'est-ce pas? Ce garçon, il vous agresse de son regard, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes pincé par le lézard et qui avez mal aux doigts en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce garçon qui me regarde ?» C'est cette façon extraordinaire de Caravage de regarder la nature. Et l'originalité profonde, c'est dans un siècle où la peinture religieuse restait tout de même un point tout à fait essentiel, d'avoir envisagé même la peinture religieuse sous cette vision du réalisme, n'est-ce pas, c'est-à-dire des êtres, femmes ou hommes, qui bénissent Dieu ou qui ont mal ou qui souffrent ou qui pleurent, n'est-ce pas. C'est ce réalisme profond des passions, c'est le peintre de la passion, Caravage, n'est-ce pas. Et cette passion, elle peut s'exprimer, encore une fois, sur le plan laïque ou religieux. Et puis, bien évidemment, il y a aussi cette façon très particulière de voir le corps de l'homme. Ça n'est pas un corps allongé ou une vierge en beauté, n'est-ce pas? Ce sont des êtres qui sont en proie aux ennuis de l'humanité, n'est-ce pas? Ou bien aux délices, n'est-ce pas? Ils sont contents, ils souffrent, ils rient, ou bien ils souffrent, ils sont pincés, etc. Donc tout ça forme cet esprit du Caravage qui est très très particulier. Il a créé après ça un peu une école autour de lui, des gens comme Manfredi ou autres. Mais lui-même avait cette originalité profonde qui, peut-on penser, a un peu stupéfait et gêné ceux qui voulaient apprécier un art italien qui était composé justement de compunction, de regard d'une nature et d'une humanité reposée et religieuse.
Je crois que Poussin a déclaré que cet homme était venu tuer la peinture.
Absolument, absolument.
Nicolas Sainte-Fargarneau, pouvez-vous nous éclairer de votre côté sur les toiles qui sont présentées dans l'exposition?
Monsieur Babelon a parfaitement résumé la situation hein, avec ce réalisme. Je me permettrai peut-être de revenir un instant sur le garçon mordu par le lézard. Parce que, alors, c'est un tableau qui évidemment nous enthousiasme, comme Monsieur Babelon l'a décrit à l'instant, si complexe, si présent, accroché au mur de l'exposition. Et en même temps, alors, il faut se souvenir, là, je me réfère à l'histoire même du tableau, c'est un tableau que Roberto Longhi a découvert à Paris en 1920, alors qu'il était de voyage quelques jours dans la capitale, et il n'a pas manqué de visiter les galeries parisiennes, et il voit ce tableau. Ce tableau, il demande à l'antiquaire, mais de quoi s'agit-il? Et l'antiquaire lui dit, écoutez, c'est un tableau de l'école italienne du XVIIe siècle, mais je ne sais pas qui l'a peint. Voilà. Et Roberto Longhi lui dit, écoutez, je, si le prix est convenable, je souhaiterais l'acheter. Et l'affaire est faite. Donc Roberto Longhi repart chez lui avec le tableau sous le bras et il va dire à ses proches « Regardez, j'ai trouvé un inédit du Caravage. »
Immédiatement, il a tout de suite compris.
Alors, c'est stupéfiant, si vous voulez. Enfin, l'histoire, il nous l'a raconté par le menu, donc on est au courant du détail de cette aventure. Bon, et on ne comprend pas. Comment se fait-il que l'antiquaire n'a pas eu l'idée que ça pouvait être un tableau du Caravage? Et là, il faut que je précise quelque chose, c'est que le tableau ne correspond pas à ce que nous connaissons de la manière du Caravage. Le Caravage, dans les deux autres tableaux qui sont dans l'exposition, puis les tableaux autour de nous, vous avez au Louvre, évidemment, le grandiose Mort de la Vierge, hein, qui est un des tableaux célèbres du Caravage, qui a fait scandale, bien sûr. Ce tableau, c'est un tableau qui est peint avec la technique du clair-obscur. C'est-à-dire que le peintre, le créateur, plonge la scène dans une atmosphère d'obscurité totale, et puis il va imaginer une source de lumière naturelle. Alors c'est une porte ouverte ou bien une fenêtre, et un rayon de lumière, avec intention, naturellement, ce n'est pas du tout le fait du hasard, vient se figer sur une figure. Et c'est toujours la figure centrale de la composition, le Christ couronné d'épines, avec le coup de projecteur qui est placé sur sa figure, qui montre bien que c'est lui le centre de l'histoire, et qu'il souffre dans ce moment de l'épisode de la Passion, ou alors d'autres thèmes que, de la même façon, Caravage va élaborer. Donc ça, c'est le Caravage que tout le monde connaît et qui développe ce style entre 1600 et la date de sa mort, c'est-à-dire 1610. Mais avant, croyez-vous que le Caravage peignait de cette façon-là? Mais Roberto Longhi sait bien que non. Il était un peintre qui peignait des tableaux réalistes, des tableaux profanes et des tableaux qui n'utilisaient pas le clair-obscur. Donc, ce sont des Caravages sans être des Caravages, vous voyez. Mais Longhi, qui sait ça par cœur, qui a repris dans le secret de son cabinet tous les documents qui lui permettaient de comprendre ce que pouvait être justement du début à la fin de sa carrière l'évolution de son style, il a tout de suite compris ce fait que le grand public ignorait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est entré dans cette galerie, il a tout de suite vu en face de lui ce tableau dont il s'est dit, ben oui, évidemment, c'est un Caravage. Hein. Mais bon, à ce moment-là très particulier, eh bien, il avait beaucoup d'avance par rapport aux connaisseurs.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Sandfargano, Roberto Longhi a soutenu sa thèse sur le Caravage en décembre 1911. Il est alors âgé de 21 ans. Il était très jeune. Or, une année auparavant, il a découvert en 1910 à la Biennale de Venise les œuvres de Renoir et de Courbet. C'est pour lui une véritable révélation. L'étoile de Courbet, notamment, lui rappelle, d'après ses propres termes, une sévérité dépouillée tout à fait caravagesque. Alors, est-ce ce pont qu'il ose alors établir avec la peinture moderne qui va pousser Longhi à étudier le Caravage? Est-ce finalement la modernité de ce maître, longtemps dénigré, éclipsé de la mémoire collective, je dirais? Est-ce cette modernité qui va favoriser sa redécouverte, précisément 300 ans plus tard, au temps finalement des avant-gardes?
Écoutez, c'est assez curieux parce que souvent on dit, voilà, Piero della Francesca, ce peintre qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, qui est un artiste qui a tendance à synthétiser les formes, c'est un précurseur du cubisme. Le cubisme étant le résumé de formes géométriques dans lequel s'inscrit, eh bien, comment dire, notre quotidien. Donc, on dit que Piero della Francesca est le précurseur d'un artiste qui était, je dirais, presque contemporain de Roberto Longhi. Et là, ce qui est fascinant, et c'est là où c'est absolument exceptionnel, c'est que Roberto Longhi établit la relation, mais dans l'autre sens. Et en fait, on comprend bien que cette agilité d'esprit qui aussi est un des caractères qui le distingue de beaucoup d'autres, c'est la fréquentation qu'il a de ces avant-gardes de son temps qui le fait réfléchir au passé et qui l'amène à se dire « mais peut-être bien que Caravage, en son temps, a lui aussi, à sa manière, été un précurseur ». Et donc, vous voyez, ça, c'est une démarche qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et c'est quelque chose qui vient en plus à, je dirais, toutes les qualités qu'il manifeste, qu'on a évoquées, l'art oratoire si brillant, la qualité de l'écriture qui est magnifique et quantité d'autres choses.
On a le sentiment que ces allers-retours dans le temps lui permettent en fait de comprendre, de rendre sensible l'essence même de l'œuvre qu'il a sous les yeux.
Bien sûr, si vous voulez, c'est dans ces rapprochements qu'il établit qu'il découvre justement des éléments de commentaires, parce que l'historien de l'art est non seulement quelqu'un qui déchiffre, c'est presque un travail, comment dire, archéologique. Il gratte avec sa truelle et petit à petit, il découvre quelque chose qui était, oublié. Mais il fait plus que ça. C'est qu'avec l'utilisation de cette langue magnifique qui est la sienne, il va trouver les éléments de traduction pédagogique pour que nous comprenions, nous qui sommes encore aveugles, ce qu'il a trouvé et ce en quoi c'est neuf.
Il rend intelligible ce qu'il voit, oui.
Oui. J'ajouterais aussi que bon, ces relations qu'il établit entre les peintres de son époque et puis les peintres italiens dont nous parlons, c'est aussi le fait de dire que nous ne devons pas regarder l'art du passé d'un côté et l'art d'aujourd'hui de l'autre. Notre regard doit être absolument le même, n'est-ce pas ? Caravage regardait la réalité avec les mêmes yeux que Monet ou Pissarro, n'est-ce pas ? Voilà. Donc nous devons essayer de déchiffrer justement cette façon qu'il avait de voir le temps moderne et l'état de ce qui l'entourait.
Alors justement, pour Roberto Longhi, il s'agit essentiellement de penser avec le regard, de se confronter directement et avant toute chose aux œuvres. Or, pour aiguiser ce regard, Roberto Longhi va très vite voyager, partir à la découverte des musées, des collections européennes, publiques ou privées, il fréquente les antiquaires. Et bien sûr, il va collectionner les œuvres qu'il est en mesure d'acheter. Alors, au sens propre comme au sens figuré, on peut dire que c'est un véritable explorateur de l'art, particulièrement de l'art italien. Là encore, il innove, il ouvre la voie et fait preuve d'une très grande liberté intellectuelle en mettant en avant des écoles, vous l'avez dit au début de l'émission, jusque-là déconsidérées. Et l'intérêt notamment qu'il porte à Piero della Francesca, lui-même formé à Florence, va ainsi le mener jusqu'à Ferrare. Pourquoi et de quelle manière ? Nicolas Sainte-Fargano.
Alors, je vais essayer de vous répondre en deux temps. Donc, d'abord, je vais, suite à votre question, évoquer la figure de Piero della Francesca. En effet, nous savons aujourd'hui, de façon sûre et documentée, que cet artiste vient à Florence dans les années 1430 et qu'il est formé dans l'atelier de Domenico Veneziano et que par cet intermédiaire, il va découvrir et prendre à son compte tout l'acquis de la nouvelle production artistique florentine, celle qui est apparue quelques années auparavant avec Donatello pour la sculpture, avec Brunelleschi pour l'architecture et avec Masaccio pour la peinture. Donc Piero della Francesca voit ces éléments-là, comprend que c'est cette nouvelle façon de rendre sensibles les images qui sont élaborées par ces différents artistes, et il va s'en inspirer. Il va, à leur suite, continuer ce chemin. Mais là où ça devient passionnant, c'est que Piero della Francesca est, contrairement à d'autres, un artiste itinérant. Il n'est pas resté à Florence. Et que fait Piero della Francesca ? Eh bien, il va remonter vers le nord et il va visiter les grandes cours qui existent à Ferrare, à Urbino, également s'arrêter à Arezzo, dans des grands foyers qui lui permettent de réaliser des œuvres majeures. Ce faisant, il apporte dans ces régions qui n'ont pas encore bénéficié de ces apports neufs, il apporte toute la culture nouvelle de Florence. Donc c'est lui, à son tour, c'est quelqu'un qui transmet la nouvelle peinture. Et Roberto Longhi, si vous voulez, c'est extraordinaire parce que 3 ans après sa thèse, publie un livre sur Piero della Francesca où il nous explique, mais écoutez, en souffre la modestie de l'auteur, mais peu importe, moi je peux le dire, jusqu'à Roberto Longhi, on avait considéré Piero della Francesca comme un artiste mineur, comme un artiste secondaire. Et Roberto Longhi le réhabilite, une fois de plus, il le réhabilite en disant mais c'est un grand créateur formel. Hein. Il a, comment dire, dans son esprit, une création qu'il met en œuvre dans ses tableaux. Et puis, non seulement cette création, elle nous renvoie à l'art nouveau, oserais-je dire, qui est celui de la Florence du début du XVe siècle, mais alors, par ses voyages, il va transmettre ces éléments de culture à ses foyers qui ne les ont pas encore perçus. Donc, rôle capital, et tout cela écrit noir sur blanc dans le livre de Roberto Longhi. Ce livre, publié en 1914, c'est l'ouvrage le plus, comment dire, connu de Roberto Longhi. Il a été réédité dans de nombreuses langues, en français à de multiples reprises, et c'est vraiment l'une des références pour les jeunes étudiants lorsqu'ils veulent apprendre le cours de l'histoire de la peinture italienne. Évidemment, on doit lire ce livre de Roberto Longhi sur le peintre. Alors ça, c'est la première partie de la question qui vous permet de comprendre comment Piero della Francesca diffuse le nouveau style dans les autres régions d'Italie. Et bien entendu, ça va toucher une cour particulière qui est la cour de Ferrare. Ferrare, c'est une ville autour de laquelle s'est rassemblée une famille qui a un rôle militaire extrêmement important. Vous savez, c'est dans le nord de l'Italie, c'est le règne des condottieri, et donc ce sont des principautés qui sont fondées sur l'existence d'armées que leurs chefs mettent à disposition des uns ou des autres. Alors, à Florence, les Médicis, à Rome, le pape, c'est ainsi que ces personnages rassemblent des fonds extrêmement importants et qu'ils peuvent jouer à leur tour un rôle de mécène. Et Piero della Francesca va passer par là. Et ça va susciter l'apparition d'une école locale, une école de peinture notamment, qui est celle donc de Ferrare. Et en 1934, Roberto Longhi publie un nouveau livre, vous voyez, à nouveau, encore un livre, un opus majeur. C'est, je vais garder le titre italien qui est magnifique, Officina Ferrarese. On pourrait traduire ça par l'atelier Ferrare. Et il faut le comprendre, je crois que la meilleure traduction qu'on pourrait proposer, ça serait la fabrique Ferrarese. C'est-à-dire, comment dans ce foyer totalement oublié, mésestimé, déprécié, comment une influence nouvelle par le biais de Piero della Francesca va aiguillonner l'esprit d'artistes qui sont là. Et ces artistes, ce sont Cosme Tura, ce sont Francesco del Cossa et puis d'autres, et qui vont former pendant de nombreuses générations l'atelier de Ferrare. Et évidemment, Roberto Longhi, vous savez, l'air de rien, l'air de pas y toucher, il arrive par là. Alors, je dois préciser qu'il y a eu une grande exposition en 1930 à Ferrare même, qui a essayé de faire le point sur justement la production artistique dans cette ville. Et qu'on a demandé à ce moment-là l'avis, et on a consulté un grand érudit qui est M. Bernard Berenson. Il fait la pluie et le beau temps sur l'histoire de l'art, et il a notamment, à propos d'un grand tableau qui est dans l'exposition que nous présentons, il a dit, mais écoutez, voilà, ce tableau, c'est l'œuvre d'un artiste. Alors, je n'ose pas vous dire le nom de cet artiste, simplement, je dois vous rappeler que c'est une Vierge à l'enfant entourée de saints sous un dais architecturé, et puis il y a un dallage qui se présente sur le devant de la scène pour faciliter la mise en perspective. Ça, c'est un truc très 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 traditionnel à ce moment-là, et vous avez un cartel avec le nom d'un personnage qui apparaît. Et Berenson a regardé le tableau et a dit, mais c'est formidable, c'est signé. Voilà le peintre qui a réalisé le tableau. Alors, Longhi, quand 4 ans après, il reprend les choses à zéro, va expliquer que le nom qui apparaît sur ce cartel, c'est pas le nom de l'artiste, c'est le nom du commanditaire. Donc, il dit, il y a eu erreur. Il le dit très gentiment, hein, à sa façon. Et puis, elle lui dit, mais non, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le tableau n'est pas signé, mais quand on regarde le style de l'œuvre, il va de soi que c'est une œuvre qu'on peut attribuer à Cosme Tura, le grand maître fondateur de l'école de Ferrare. Et depuis, je dois dire que personne n'a mis en cause cette attribution brillante.
Alors, l'exposition met aussi en évidence une autre passion de Roberto Longhi, c'est celle des primitifs italiens et en particulier de Giotto. Alors là, on va peut-être reparler encore de Berenson, parce que deux panneaux achetés par Nelly Jacquemart en 1911 ont été identifiés en 1930 comme étant de la main de Giotto, une nouvelle fois par Roberto Longhi. Et comment est-il arrivé avec certitude à cette conclusion alors que Je peux employer cette expression, son grand rival, l'Américain Bernard Berenson, historien d'art lui aussi émérite, était passé pour sa part complètement à côté.
Moi, je voudrais insister surtout sur le fait que nous retrouvons ici le personnage de Nelly Jacquemart-André, n'est-ce pas ? Nous trouvons un collectionneur. Bon, et je rappelle que Longhi a été aussi un collectionneur et que dans l'exposition que nous présentons, il y a des œuvres qu'il a achetées, Nicolas Saint-Fingarneau vous l'a rappelé aussi, et puis des œuvres qu'il a identifiées. C'est donc deux moitiés, n'est-ce pas, d'exposition qui se font. Eh bien, dans les œuvres qu'il a identifiées, il y a justement des œuvres achetées par Nelly. Et je trouve très profondément touchant que Nelly, dans les acquisitions qu'elle a faites auprès des grands marchands d'art italiens, ait été frappée par ces primitifs, n'est-ce pas ? Et c'était des morceaux de primitifs, en réalité, ce sont des morceaux d'un polyptyque. Et vous savez que le jeu des polyptiques pour les historiens d'art, c'est un merveilleux jeu, n'est-ce pas ? C'est une sorte de rébus, n'est-ce pas ? Ou de jeu de dames, n'est-ce pas ? Il s'agit de compléter ce qui manque, de regarder comment les personnages sont l'un à côté de l'autre. Et puis s'il n'y a pas un élément sur le côté droit ou sur le côté gauche qui donne l'identité de quelque chose qu'on pourrait trouver dans un musée beaucoup, beaucoup plus loin, n'est-ce pas ? C'est le plaisir des polyptiques. Et nous avons eu deux exemples dans les expositions dernières pu prouver justement l'intérêt et la reconstitution de ces polyptiques. L'un au musée Jacquemart-André et un autre au musée de Chantilly, n'est-ce pas, où des œuvres pour lesquelles nous avions prêté justement des œuvres de l'abbaye de Chaly ont pu arriver à reconstituer ces grands polyptiques. Donc c'est le regard des deux et puis la vision performante immédiatement de Longhi qui, au-delà de ce qu'avaient dit les autres, ses prédécesseurs, Berenson ou d'autres disent « ça c'est Giotto, ça c'est Giotto di Bondone, Giotto qui était fort mal connu à ce moment-là. »
Alors, Nicolas Saint-Fargarneau ?
Oui, ce que M. Bablon ne dit pas et ce qui ne m'étonne pas de lui, parce qu'il ne veut pas avoir d'appréciation désagréable, mais moi je vais me permettre de le rappeler pour vos auditeurs. Après-guerre, l'Institut de France, qui a donc reçu le legs Jacquemart-André et qui a formé deux musées, le musée du boulevard Haussmann, le musée Jacquemart-André, dans lequel nous présentons cette exposition Longhi, et puis aussi l'autre moitié de la fondation qui est l'abbaye royale, l'ancienne abbaye royale de Chaly et qui a été un temps la demeure de la famille Jacquemart et c'est la raison pour laquelle Nelly plus tard va racheter lorsque ce domaine est en vente l'ensemble et qu'elle va le recomposer comme la demeure parisienne avec des collections qu'elle va reconstituer, je le répète, à la manière de l'hôtel parisien. Alors Nelly Jacquemart laisse ces deux tableaux qu'elle a achetés en vente parisienne à Chaly. La guerre passe, à ce moment-là, le domaine est fermé. Et puis, un nouveau conservateur est nommé à Chaly. Il a pour nom Louis Gillet. Et ce qui est très important pour nous, c'est que Louis Gillet est le traducteur français des ouvrages de Bernard Berenson. Et tenez-vous bien, il invite à deux reprises l'éminent savant, le professeur Bernard Berenson, à Chaly. Berenson a été l'un des hôtes de Chaly. Et donc, comme vous l'avez certainement fait, vous traversez les galeries de Chaly, celles du rez-de-chaussée, celles de l'étage, avec toutes ces magnifiques collections italiennes. Et vous passez de travée en travée avec des tableaux qui remontent au XIVe siècle, des écoles florentines, vénitiennes et autres. Et donc, vous vous arrêtez dans la salle des moines, devant les deux panneaux de Giotto, et vous vous dites, mais c'est extraordinaire, parce qu'avant moi, il y a de cela quelques années, Berenson est passé devant. Mais la question qui se pose à ce moment précis, c'est qu'est-ce que Berenson en a pensé ? Et ça, nous le savons parce que nous avons, M. Bablon a rassemblé toutes les éditions successives des guides de l'abbaye de Chaly. Alors, dans la première édition, celle qui succède au legs Jacques Marandré, on dit « École florentine du XVe siècle », ce qui est une aberration totale, pardon de le dire, mais peu importe. C'est comme ça que Nelly Jacquemart avait acheté les tableaux. Alors, après, on passe après-guerre, hein, puisque, bon, pendant la guerre, l'abbaye est fermée. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, suite à la démarche de Berenson, les tableaux sont attribués à l'école siennoise du milieu du XIVe siècle. Pardon. Donc ça veut dire que on change de ville, on passe de Florence à Sienne et que on descend la chronologie de 50 ans. Donc c'est quand même considérable. Mais on est loin du compte parce que 5 ans plus tard, Roberto Longhi passe à son tour par là. Oui. Et alors lui, comme M. Bablon le vient de l'expliquer, il voit ces tableaux, il a une certitude immédiate sur leur auteur. Et surtout, parce que c'est là où, si vous voulez, sa démarche est passionnante, il ne s'intéresse pas simplement au fait de dire « c'est de un tel ou plutôt de tel autre ». Ce que font souvent les érudits ou les connaisseurs, comme on les appelle. Mais lui, il se dit « voilà ». Ces deux tableaux achetés par Nelly Jacquemart me font penser à deux autres tableaux, l'un étant dans la collection Horn à Florence et le second étant aujourd'hui à la National Gallery de Washington. Et donc, les quatre tableaux forment quatre éléments d'un grand polyptyque qui a existé autrefois. Et alors, il avance l'hypothèse que l'ensemble a décoré le maître-autel de l'église de la Badia à Florence. Donc, ce n'est pas simplement un bout de panneau peint auquel il donne un nom. Vous voyez, il refait toute son histoire. Donc, ça, on est complètement dans la fabrique Roberto Longhi. Là, on comprend comment ce grand historien fonctionne. Et au fond, à l'exception d'un seul élément, il faut quand même le dire, qui est la provenance de cet ensemble sur lequel récemment on a changé d'idée, puisqu'on pense que c'est plutôt l'église Santa Croce de Florence, d'où proviennent ces panneaux. Mais en tout cas, l'attribution à Giotto, elle est restée. Et en tout cas, le rassemblement des quatre panneaux, il est cohérent et plus aucun historien de l'art n'en doute. Donc ça, c'est le travail de Roberto Longhi. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que, évidemment, on se dit, Roberto Longhi a dû passer un instant devant ses tableaux et il nous a proposé les solutions que je viens d'évoquer. Berenson, il a passé 15 jours à boire le thé devant les panneaux. Il n'a pas eu la bonne intuition.
Il n'a pas la fulgurance, peut-être.
Oui. Non, Monsieur Bablon a raison. Berenson est un immense savant et il a fait dans les collections Jacques Marandré quantité de découvertes majeures. Simplement, je veux dire que à ce point-là, vous voyez que Roberto Longhi voilà, la tradition la plus la plus fréquente. Il va tout de suite chercher une autre idée et souvent évidemment il a raison.
On dit que Berenson travaillait souvent avec une loupe alors qu'on a l'impression que Roberto Longhi prend du recul et essaie de comprendre immédiatement
ce que vous dites.
L'œuvre dans son ensemble. Donc dans l'exposition, on est particulièrement touché aussi par la présence côte à côte de deux panneaux sur bois, l'un attribué à Masaccio, qui représente une vierge à l'enfant, dite vierge à la chatouille, et l'autre à Masolino. Et pourquoi on est touché ? Parce qu'on sait que ces deux artistes aussi sont célèbres pour avoir décoré la chapelle Brancacci à Florence. Ils ont travaillé ensemble. On sait que Masaccio a beaucoup influencé Masolino. Et dans l'exposition, donc, on apprend que c'est Pietro Longhi qui a attribué la Vierge à la chatouille et à Masaccio. Et là, comment a-t-il fait ? En fait, il a adopté peut-être la démarche inverse. Il a décelé l'influence de Masolino, c'est ça, dans cette œuvre ?
Alors, si vous voulez, pour résumer les choses, vous avez dans l'exposition deux tableaux, l'un de Masaccio et l'autre de Masolino. Pourquoi ces deux peintres sont toujours associés ? Parce que, en effet, vous l'avez rappelé, ils travaillent ensemble à un grand chantier qui est le décor de la chapelle Brancacci. C'est entre 1421-1427. Et pour tous les historiens de l'art d'aujourd'hui, on considère, si vous voulez, que c'est la deuxième étape qui tire l'école florentine de peinture de l'obscurité. Alors, le premier pas a été fait un siècle avant par Giotto. À son propos, Vasari, qui est un grand peintre, un grand décorateur, mais le premier historien de l'art de la peinture italienne, dit que Giotto a passé la peinture du grec au latin. Alors, c'est très curieux comme formule, mais il faut le comprendre. Il veut dire qu'on est passé de l'art sous influence byzantine, et en effet, au XIIIe et au XIVe siècle, l'art est sous l'influence byzantine. Et donc, on est passé à quelque chose d'autre. Cette autre chose, c'est une modernité, un réalisme que Giotto a imposé. Seulement, quelques années après sa mort, et du fait d'ailleurs du passage de la grande peste noire, je vous le rappelle, qui va décimer une génération complète d'artistes, ce qui demeure dans la peinture en Italie comme en France, c'est le style gothique international, y compris en Italie. Ça veut dire que la peinture, elle va abandonner les modèles de Giotto et qu'elle va passer à un mode de représentation très décoratif, très coloré, très élégant, qui sont les principes de la peinture gothique ou de l'art gothique d'une façon plus générale. Et donc, on arrive au début du XVe siècle. Et qui va tirer, comment dire, le foyer florentin de cette ambiance, encore du gothique international, c'est Masaccio. Mais il faut maintenant revenir sur un élément très curieux et très passionnant, c'est que le chef d'équipe, c'est Masolino, il a environ 45 ans, c'est lui qui donne les ordres et c'est lui qui impose le style. Et puis, il a une bande de jeunes garnements, et parmi ces garnements, il y a Masaccio qui a une vingtaine d'années à peine. Et alors, stupéfaction, en réalité, qui donne le là, c'est Masaccio. Et Masolino va être tellement saisi par la modernité du style de son jeune assistant qu'il va se mettre à peindre comme lui. Donc voilà pourquoi les historiens de l'art considèrent que ce moment critique, c'est un moment où se révèle la personnalité si importante de Masaccio. Alors revenons à la chatouille que vous avez évoquée. C'est un tout petit tableau qui était connu de tous les amateurs florentins. Il appartenait dès le début du XXe siècle à une collection italienne et de très nombreuses personnes avaient eu l'occasion de le voir. Alors je suis désolé, il faut que je le décrive pour vos auditeurs, pour qu'on comprenne de quoi je vais parler. Le tableau, c'est un tableau qui est sur fond d'or. Autrement dit, même si nous sommes au début du XVe siècle, il reprend des schémas qui sont des schémas qui appartiennent au principe de la peinture ancienne, traditionnelle. Bon, donc vous avez ce caractère-là qui est un caractère plutôt traditionnel dans cette peinture. Puis regardez le manteau de la Vierge qui est évidemment, comme de tradition, peint en bleu. C'est un très beau bleu lapis lazuli. Et vous avez la bordure dorée qui fait tout le tour de ce manteau qui est visible sur la peinture. Ça vous donne une très belle ligne ondulante qui fait le tour du personnage. Et ça, c'est un principe caractéristique de la peinture gothique. Autrement dit, vous avez là une ligne qui souligne la forme, mais avec beaucoup d'élégance. Donc, le fond d'or, le liseré doré, Bah, écoutez, ça nous renvoie à un artiste qui forcément est totalement impliqué par la peinture gothique. Donc, ça ne peut pas être Masaccio. Et alors, ce tableau dont je vous répète que tout le monde le connaît, hein, Roberto Longhi, pardon de revenir à lui, une fois il passe, il examine ce tableau et il dit, mais non, c'est bien de la main de Masaccio.
C'est extraordinaire.
Et comment expliquer le maintien d'éléments qui appartiennent à la tradition? Tout simplement parce que ce tableau est probablement l'un des premiers réalisés au tout début de la carrière de Masaccio par ce jeune artiste. Et alors, il développe, évidemment, il faut qu'il il a besoin de convaincre les gens qui l'entourent. Et alors, il dit, regardez comment dans ce tableau, la lumière, parce que c'est ça l'élément très important, la lumière découpe la forme. Et donne, comment dire, presque du relief au corps de l'enfant Jésus. Alors ça, c'est la première chose qui lui permet de dire, ce point-là, c'est un point qui appartient à la peinture, moderne. Et le deuxième point, dans la peinture gothique, les vierges à l'enfant sont souvent des images totalement idéalisées. Cela veut dire que le sentiment humain est absent de ces représentations. Et quand Roberto Longhi a, comment dire, l'extraordinaire trouvaille de cette expression de la Vierge à la chatouille, ça veut tout simplement nous dire quoi? Ça veut dire que pour une des premières fois, on a un petit enfant, alors je ne vais plus l'appeler enfant Jésus, je vais simplement dire un petit enfant qui attrape sa maman, et qui lui manifeste là, vous voyez, cette relation si magnifique que l'on découvre quand une jeune maman tient son enfant nouveau-né sur son sein. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est un sentiment qui n'existe pas dans la sensibilité de caractère gothique. Par contre, chez les modernes, évidemment, elle va être développée. Et cette raison, plus la précédente que je citais à l'instant, autorise Roberto Longhi à nous affirmer que le tableau est de Masaccio. Alors, je termine l'histoire en disant, mais écoutez, quand il a publié l'article où il dit « Ce tableau, je propose de l'attribuer à Masaccio », tout le monde s'est gossé en disant « Mais c'est ridicule, Monsieur Longhi a dû quand même, il aurait dû faire attention avant d'affirmer de telles inepties ». Il a été très violemment critiqué. Hein, n'oublions pas que voilà, c'est un personnage qui suscite des réactions fortes et violentes parfois. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour considérer que le tableau est en effet de Masaccio, voilà. Ça ne fait plus aucun doute.
Voilà. La chatouille a fait entrer le tableau dans une autre ère chronologique que les tableaux précédents.
Alors, si je peux me permettre d'ajouter juste un dernier élément, ce tableau a été acheté il y a une quinzaine d'années seulement par la galerie des Offices à Florence. Donc, si vous voulez, ça n'est que très récemment que ce chef-d'œuvre est rentré dans l'un des plus grands musées du monde, donc à Florence, où vous avez ces collections si magnifiques qui sont présentées.
Nous avons la chance de l'admirer actuellement.
Mais voilà, et surtout, j'insiste beaucoup auprès de vos éditeurs, lorsque vous avez la chance d'aller à Florence, vous arrivez dans la pièce où l'œuvre est présentée, elle est protégée par des potelets, elle est à l'abri sous une cloche de verre, et on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas mesurer ce que j'ai essayé de vous expliquer, le caractère de la lumière, les gestes si délicats qui unissent les personnages, tous ces éléments qui apparaissent sur le tableau. Et nous avons une présentation, ici une vitrine avec le tableau qui est juste derrière, c'est-à-dire que vous êtes à quelques centimètres de l'œuvre et que rien ne vous échappe. Donc je vous en supplie, précipitez-vous au musée Jacques Marandré.
Alors, influence réciproque, adoption d'un langage commun, j'ai le sentiment que c'est ce qu'aimait déceler Longhi chez les peintres, qu'il affectionnait et qu'il sentait animé d'un souffle similaire. Donc forcément, sa passion pour le Caravage va le pousser à identifier ceux qui avaient pu l'influencer, mais aussi ceux qui, au cours du XVIIe siècle, je rappelle que Caravage est mort en 1610, les peintres, enfin ceux qui pouvaient être considérés comme ses suiveurs directs ou indirects. Alors, à travers les caravagesques exposées au musée Jacques Marandré, on comprend que l'Europe entière, en fait, fut concernée par ce mouvement irréaliste initié par Caravage et qui va perdurer une grande partie du XVIIe siècle. Jean-Pierre Babelon.
Oui, c'est effectivement... Caravage a créé, comme je le disais tout à l'heure, une façon de regarder, une façon d'apprécier le monde, d'apprécier la société aussi. Il l'a apprécié quelquefois sur un plan, qu'on a qualifié de vulgaire ou d'érotique, n'est-ce pas ? Mais c'était aussi dans un monde du naturaliste, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que ce naturalisme ? Ça veut dire qu'au XVIIe siècle, les peintres français ou italiens se sont penchés, et bien sûr néerlandais, se sont penchés sur la réalité, c'est-à-dire c'est le monde des natures mortes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que l'homme qui soit intéressant. Il y a la réalité de ce qui a été créé par Dieu, n'est-ce pas ? Les fruits, les légumes, mais aussi ce que l'homme a créé pour sa nourriture, les pots, etc., tout ça porté sur des tables, son intérieur, n'est-ce pas ?
Donc, attentif toute sa vie aux innovations artistiques de son temps, Roberto Longhi aimait, on l'a vu, analyser les maîtres anciens à la lumière de peintres plus modernes, comme Courbet, Manet, Cézanne. Il appréciait les futuristes, il fut très proche de Giorgio Morandi. Il a été le maître de Paolo Pasolini, qui s'en est beaucoup inspiré dans son œuvre cinématographique. C'est beaucoup inspiré de son enseignement. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il n'a pas été simplement un historien d'art au sens un peu étriqué du terme. Il a été un acteur majeur de la vie culturelle en Italie au XXe siècle. Et en son temps, il a initié une manière nouvelle, révolutionnaire. Il a fait de nombreux émules. Or, dans la dernière salle de l'exposition, trois tableaux lui ayant appartenu sont présentés. Et comme de la main de Ribera. Et on apprend qu'ils n'ont été authentifiés comme tels qu'en 2002. Et là, on a un peu le sentiment que l'histoire continue et que par-delà la mort de Longhi, le travail commencé se poursuit. Les voies nouvelles qu'il a proposées sont plus que jamais à l'ordre du jour. On peut s'accorder à penser d'une certaine manière que la relève est assurée. Et quel rôle joue aujourd'hui notamment la Fondation Longhi ?
Alors, vous avez à la Fondation Longhi, donc à Florence, les archives de Roberto Longhi, sa collection, naturellement, donc, dont nous ne présentons qu'une part. Hein, la collection compte plusieurs centaines de tableaux. Vous avez les archives, la photothèque, et puis vous avez tous les ans des boursiers qui sont reçus à la Fondation de façon à ce qu'ils puissent sur place profiter de ce rassemblement extraordinaire de connaissances Roberto Longhi avait amené autour de lui. Donc voilà le rôle actuel de la Fondation. Vous avez raison de dire que c'est un travail qui continue. Je voudrais simplement dire que dans 15 jours, à la Sorbonne, se tiendra un colloque autour de Roberto Longhi, et ça veut dire que aussi bien les conservateurs de musées par l'intermédiaire de cette exposition, mais également nos collègues universitaires s'intéressent encore et toujours à cette personnalité, parce que elle est riche d'enseignements qui nous servent au quotidien.
Alors Jean-Pierre Babelon,
oui, comme vous dites, le fait que il y a là une présentation de tableaux qu'il n'avait pas identifiés, mais que les successeurs dans sa lignée spirituelle identifient, est extraordinaire, n'est-ce pas ? L'histoire n'a pas de fin, n'est-ce pas ? Nous avons l'arrière, et l'aujourd'hui et le demain, n'est-ce pas ? Et je crois que, en ce cas, comme je le disais tout à fait au début, notre exposition se présente de façon totalement originale, n'est-ce pas ? Ça n'est pas la vision d'un fait passé ou terminé, n'est-ce pas ? Tout continue, et le regard des visiteurs, quels qu'ils soient, des plus formés ou moins formés, mais plus enthousiasmés, n'est-ce pas, nous permet de suivre cette direction qu'a définie Roberto Longhi.
Jean-Pierre Babelon, Nicolas Saint-Fargano, notre émission va bientôt s'achever. Donc un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur Canal Académie. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent visiter l'exposition de Giotto à Caravage, Les Passions de Roberto Longhi au musée Jacques Marandré à Paris jusqu'au 20 juillet 2015. Alors, nos auditeurs étant disséminés dans le monde entier, j'ajoute aussi qu'une exposition est actuellement présentée au Palais Royal de Milan jusqu'au 28 juin. Elle s'intitule « Art lombard de Visconti au Sforza », en hommage à Roberto Longhi, qui avait choisi le même titre pour sa grande exposition, je crois, de 1953. Merci à tous pour votre attention fidèle et à très bientôt sur Canal Academy. Thank you.